Il s'agit du prophète Daniel, qui se trouvait dans la ville de Babylone. Et ce jeune homme, eh bien, il va réussir à mener une vie intègre, une vie droite, qui, dans un contexte qui était loin d'être simple. Une simple lecture dans le livre de Daniel, au chapitre 1er, et on va lire à partir du verset 2. Ça va ? La journée n'a pas été trop dure ? Non ? Pas de moi à sourire. Non, en vrai. Hein ? Allez, il fait chaud. C'est une bonne chaleur. C'est une bonne chaleur. Livre de Daniel, chapitre 1er. C'est bon, on m'a trouvé ? On y va ? Verset 4. Verset 2, pardon. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit à Akhnépaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires. Jeunes garçons, sans défaut corporel, de belles apparences, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur imposa des noms, à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, à Azaria, celui d'Abed-Nego. C'est pas juste. Non ? C'est pas juste. Ces jeunes hommes qui, selon toute probabilité, quand on voit la suite de leur vie, avaient eu une vie intègre, avaient eu une vie droite, les voilà qui se retrouvent au milieu d'un empire qui est profondément païen, coupés de leur famille, coupés de leurs racines, coupés de ce qu'ils sont. C'est pas juste. Qu'ont-ils fait pour mériter ça ? Qu'ont-ils fait finalement pour mériter de vivre une telle chose ? Rien. Simplement, ils ont été emmenés avec un peuple qui avait été infidèle. Ils ont été ce qu'on peut appeler les dégâts collatéraux du péché, eh bien, d'un peuple tout entier. Et mes frères et sœurs, mes chers amis, je crois que dans nos vies, parfois, on a cette réflexion de dire « c'est pas juste, c'est pas juste ». Je vis d'une manière droite, je vis d'une manière sainte, je m'efforce d'avoir une moralité, je m'efforce de faire le bien quand cela est possible. Et pourtant, autour de moi, eh bien, il y a comme un torrent qui m'emmène, un petit peu comme une branche, et me brinque-balle de droite, de gauche, me bouscule sur les cailloux, alors que moi, de mon côté, j'essaie de faire du bien. Alors que moi, de mon côté, j'essaie de vivre d'une manière correcte et digne de l'Évangile. Ils n'avaient pas mérité les choses, et pourtant, ils s'y trouvaient. Et peut-être que dans ton cœur, il y a cette pensée de dire « Je ne mérite pas ce que je vis. Je ne mérite pas les difficultés que je rencontre. Je ne mérite pas les difficultés familiales, les difficultés professionnelles ou scolaires. Pourquoi ça tombe sur moi ? C'est pas juste. » Et la pensée qui m'est venue sur le cœur, c'est de vous dire que le Dieu qui a permis à Daniel de rester un homme digne, de rester un enfant de Dieu, de ne pas se laisser souiller, de ne pas se laisser salir. Ce Dieu est le même qui est dans le ciel aujourd'hui et qui veille sur chacune de nos vies. Ce Dieu est le même qui porte ses regards sur nous, qui porte ses regards sur nos vies. C'est possible de continuer à vivre, eh bien, d'une manière droite, d'une manière juste, de vivre selon les principes de la Bible au 21e siècle. C'est possible parce que le Dieu de Daniel est également le nôtre. Il est capable de faire exactement la même chose dans notre vie. Et Daniel, au lieu, non seulement a vécu d'une manière droite, mais en plus, il a contaminé la cité de Babylone. Hein? Il a apporté la bonne nouvelle, il a réussi à procurer une forme de changement, même si le royaume de Babylone va être bien brisé par l'invasion des Perses un petit peu plus tard, mais il va tout de même annoncer l'Évangile. Et la question que je me suis posée, eh bien, c'est de dire comment est-ce que Daniel a fait pour être un témoin de Jésus, pour annoncer la libération pour finalement être un témoin qui véhicule à la vérité dans un contexte aussi difficile. La première chose, la première raison, la première, le premier axe qu'a fait Daniel, qu'a vécu Daniel, eh bien, c'est qu'il a résolu de ne pas se souiller. Il a résolu, il a pris des positions. Vous savez, le plus dur dans un témoignage, ou le plus facile, c'est de dire non. C'est de dire non. Non, je ne ferai pas ci, non, je ne ferai pas ça. C'est pas simple, hein, de dire non. C'est ce qu'on nous apprend en premier dans un cours de management. Dans une entreprise, un patron doit être capable de dire non. Sinon, il devient ce que l'on appelle une poubelle. Une poubelle. Et pour un chrétien, c'est exactement la même chose. La chose qui est la plus difficile, c'est d'être capable de dire non. Sinon, on devient une poubelle. De la même manière. Et Daniel, là, il va avoir un choix, devant lui. Il va dire, est-ce que je peux manger de ces viandes, de la viande qui est devant moi? Certainement pas, non pas que Daniel ait été végétarien, mais parce que ces viandes avaient été sacrifiées aux idoles. Et il ne voulait pas consommer de ces viandes parce que sa conscience ne lui permettait pas, et la loi ne le permettait pas. Et de ce fait, il va aller trouver le chef des eunuques, le chef de la cantine, puis il va lui dire, écoute, moi je ne peux pas manger ce genre de choses-là, j'y suis allergique, ma foi ne me le permet pas, hein, je ne peux pas. Le chef des eunuques lui dit, vous êtes bien gentil, hein, ou toi et tes trois copains, mais le problème, c'est que c'est le roi qui fait le menu, hein. C'est pas toi. Hein. Et si jamais tu commences à maigrir, c'est moi qui viens te faire taper sur les doigts. Et Daniel me dit, écoute, fais un essai. Et si tu vois que, eh bien, on se porte mal, eh bien, dans ces cas-là, eh bien, tu arrêtes tout, et puis, on mangera des viandes. Et donc, ils vont manger des légumes vapeur. Pas cool, hein. C'est pas génial, hein. Les légumes vapeur, je sais pas si c'était des courgettes, des carottes, enfin bref. Bref, ils vont manger des légumes vapeur. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir meilleure mine que tous les autres jeunes hommes qui, par contre, étaient nourris avec le du roi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pour être un témoin véritable, il faut être capable de dire non. Non, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Non, il y a certaines attitudes que je ne peux pas avoir. Non, il y a certains comportements que la Bible m'interdit d'avoir et que ma conscience m'interdit d'avoir. Et donc, je ne les ferai pas. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, le Seigneur, comme chaque fois qu'on lui obéit, eh bien, il nous bénit. Et Daniel avait un bon avant-point, il avait bonne mine. Merci Seigneur. Je me souviens de cette expérience que j'ai faite alors que j'étais en Sud de Caux. Il y avait une épreuve de maths, enfin, c'était pas ma matière favorite. J'avais pas envie de la bosser. Et j'avais ouï dire que certains avaient récupéré les sujets par les troisième années, étant donné que le prof faisait toujours les mêmes compos. Et donc les sujets ont commencé à tourner. Et la veille, à la réunion de prière, il y a eu un don spirituel qui disait que, eh bien, on aurait un choix à faire et qu'il fallait rester droit dans le choix qu'on aurait à faire. Et j'ai eu les sujets entre les mains. Et puis, parole m'est revenue sur le cœur. Et je dis non, je vais me débrouiller par moi-même. Pourtant, je n'aimais pas cette matière. Je n'aimais pas. Non, c'est bon, je vais me débrouiller. Ça va le faire. Et puis, j'ai bossé mes maths. Je me souviens, c'était après une réunion de prière. J'en avais pas envie. Et résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas les bons sujets. C'est-à-dire que toute la promo s'est plantée, et le seul à avoir réussi, c'était moi. C'était moi. Comme quoi, parfois, être capable de dire non, mais derrière, il y a la bénédiction de Dieu qui entre en ligne de compte, qui entre en jeu. Et Daniel a été un témoin, non pas parce qu'il a dit oui peut-être, mais parce qu'à certains moments de sa vie, il a été capable de dire non, je ne me souillerai pas. Non, je ne ferai pas. Non, je ne mettrai pas mon cœur, je ne mettrai pas mon corps, je ne mettrai pas mon âme, je ne mettrai pas mon salut en danger. Mais je veux rester et je veux demeurer fidèle. Amen. Et le premier témoignage qui soit, eh bien c'est ainsi. Le deuxième chose qu'a fait Daniel, c'est qu'il a été fidèle dans son quotidien. Au verset 17, il est dit que Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, du discernement, dans toutes les lettres et de la sagesse. Dans le quotidien, eh bien Daniel a été certainement un travailleur. Il a su finalement porter la bonne nouvelle au travers de ses actes de tous les jours et montrer au roi et au chef que le roi avait mis au-dessus de lui, ben, qu'il était tout simplement sérieux. Et même si notre contexte est dur, même si parfois on doit subir quelques injustices, eh bien, notre quotidien ne doit pas en pâtir. On doit rester des hommes et des femmes, eh bien, qui faisons les choses du mieux que nous le pouvons. Être un bon témoin pour nos parents, pour nos enfants, être un bon témoin pour nos patrons, pour nos profs, pour nos voisins. Vous ne savez pas à quel point vos voisins vous observent. C'est incroyable. C'est incroyable. Je me souviens d'une anecdote. Mon père avait l'habitude de se lever tôt, Et un jour, il y a une voisine qui l'interpelle alors qu'il était là. Qui l'interpelle et puis qui lui dit « Mais pourquoi vous vous levez à 4h30 du matin ?» Et mon père, plutôt que de s'en offusquer, de lui répondre « Pour prier pour vous. » Pour prier pour vous. Et on nous observe, il n'y a rien à dire. Et finalement, c'est dans notre quotidien, et c'est dans son quotidien, que Daniel a été fidèle. Et le résultat des courses, c'est que Dieu lui a donné l'intelligence et la sagesse. Il a dû être fidèle dans les petites choses. Peut-être qu'on a dû commencer à lui dire « Tu balayeras la réserve derrière. Hein? Tu vas commencer à faire des choses basiques. Tu vas être un gratte-papier dans la cité de Babylone. » Mais Daniel, eh bien, petit à petit, eh bien, Dieu va lui donner de l'intelligence et sa renommée va être connue. Être fidèle dans les petites choses, c'est être fidèle dans son quotidien. Être, pour vous qui êtes parents, c'est être fidèle et être capable, parfois, eh bien, de demander pardon à vos enfants. Et pour vous qui êtes jeunes, être capable de demander pardon à vos parents. C'est être capable, eh bien, d'aider, d'assister, bref, de vivre l'évangile dans les petites choses. L'évangile, ce n'est pas simplement faire des miracles et voir des aveugles voir, ou alors voir des paralytiques marcher, voir des sourds entendre, hein. Mais c'est également, eh bien, le vivre dans les petits détails, dans les petites choses de notre vie, dans notre quotidien. Et c'est ce que je dis souvent, c'est transpirer Jésus. C'est sointer Jésus. C'est sointer l'odeur de Christ, le parfum de Christ. C'est que, au travers de ce que l'on est, eh bien, les autres puissent dire, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose de différent. Et la renommée de Daniel va s'étendre parce que lorsque le roi va avoir des nuits un petit peu torturées à cause d'un songe et que personne ne va être capable de l'expliquer, on va aller voir le roi et on va lui dire, moi je connais quelqu'un, hein, qui est capable d'expliquer ton songe. Appelle Daniel, ce petit gars-là, hein, et je suis sûr qu'il va être capable. Et le roi a corsé le jeu parce qu'en plus il n'a même pas voulu donner la nature du songe. Autour de nous, il y a bien des choses qui tracassent nos contemporains. Peut-être des choses qui tracassent ton cœur. Au début, c'était qu'un petit détail, c'était un petit quelque chose qui t'embêtait juste un petit peu. Puis, au fur et à mesure, ça grandit. Et aujourd'hui, ça devient un véritable problème. Et, en quelque sorte, ça pourrit ta vie. Ça pourrit ta vie, ça la gâche. Ça gâche ton quotidien. Mais sache une chose, c'est que, tout simplement, autour de toi, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont capables de t'aider. Et le roi va faire appel à Daniel. Et Daniel, eh bien, va prier, va se tenir devant Dieu, va appeler ses amis, lui dire, écoutez, j'ai un problème, il faut qu'on arrive à le solutionner. Et là, la révélation va lui être donnée. Je crois de tout mon cœur que Dieu est celui qui est capable de soulager les cœurs, de rendre des nuits plus paisibles, de rendre la paix là où il y en a besoin. Et le roi Nebuchadnezzar a retrouvé la paix suite à la révélation que Daniel va lui donner. Quel beau témoignage. Et autour de nous, combien d'hommes et combien de femmes souffrent? Combien d'hommes et combien de femmes sont tracassés? Combien d'hommes et combien de femmes ont le cœur lourd, ont le cœur chargé, ont le cœur détruit, ont le cœur brisé? Mais nous connaissons celui qui est capable de restaurer. Nous connaissons celui qui est capable de guérir. Et lorsqu'on vient nous taper sur l'épaule et nous dire « Je ne vais pas bien », hein, allons au-delà du « Je ne vais pas bien ». Quel est le problème véritable? Quel est le problème authentique? Et dans tous les cas, eh bien, la réponse, c'est Jésus. La réponse, c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur. Que le Seigneur puisse nous donner d'être des Daniel, d'être de ces hommes, de ces femmes, qui seront soulagés par l'annonce de l'Évangile. Eh bien, lorsque des choses viennent tracasser les consciences, tracasser les cœurs, tracasser les vies, moi, je crois que Dieu reste le même et qu'il agira au travers de nous. Daniel n'en a pas fait trop, hein. Mais il est resté fidèle, il est resté intègre. Et il a su, eh bien, véritablement être là quand on avait besoin de lui. Quatrième chose que va faire Daniel, un jour il va y avoir un édit du roi qui va sortir. Et cet édit du roi avait pour but d'interdire tout acte de piété autre que l'adoration du roi. Et Daniel va en avoir connaissance, et le texte dit que lorsque le décret eut été écrit, Daniel en eut connaissance. Et que va faire Daniel? C'est quand même extraordinaire, ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser les portes, les fenêtres de sa maison ouvertes, et puis là, trois fois par jour, il va se mettre à prier son Dieu. Daniel, tu aurais pu fermer les fenêtres au moins. On ne t'aurait pas vu. Hein? Tu aurais été en sécurité, tu aurais été mieux. On ne t'aurait pas vu, ça aurait été bien. Mais non. Daniel, il va continuer à vivre sa vie de piété. Alors on va le voir, puis on va aller dire au roi, ton copain Daniel, là, il vit pas comme il faudrait. Il désobéit. Et le roi va être bloqué. Et résultat des courses, quelle va être la récompense de Daniel pour avoir obéi? Fosse au lion. Déjà, ça vaut la peine d'obéir à Dieu. Il va se retrouver dans une fosse avec des lions prêts à être dévorés. Il ne faut pas voir l'obéissance comme un sujet forcément de bénédiction. Je n'obéis pas pour être béni. Mais j'obéis parce que j'aime mon Dieu. Trop souvent, on s'est dit, Seigneur, on a fait une forme de chantage à Dieu. Seigneur, je t'obéis, donc tu vas me bénir. Seigneur, je fais ça, donc tu vas me bénir. Seigneur, je sacrifie ça, donc tu vas automatiquement me bénir. Regardez l'attitude d'Abraham avec Isaac. Dieu va ordonner à Abraham d'aller sacrifier Isaac, son fils, hein, l'enfant de la promesse, qui n'était plus un gamin puisqu'il avait une vingtaine d'années. Et Abraham va partir de bon matin, il va charger la mule, etc. Là, il va prendre ses serviteurs, il va tout préparer, il va arriver sur le mont Morija, il va dresser l'autel, il va prendre le couteau, et il est prêt à sacrifier son fils. Il est prêt à obéir. Et dans son cœur, le livre des Hébreux dit qu'il avait la foi que Dieu était capable de ressusciter son fils. Il était prêt à faire l'acte, si Dieu ne l'avait pas arrêté. Parce qu'il savait que derrière Dieu était capable de ressusciter son fils. Seigneur, je t'obéis. Non pas parce que j'espère une bénédiction derrière, mais tout simplement parce que je suis ton disciple. Seigneur, je continue à prier, malgré tout, et envers tout, et contre tout. Seigneur, tout simplement parce que je suis ton disciple. Même si on me l'interdit, eh bien je continuerai à te suivre, parce que je t'aime et que toi tu n'as rien retenu. Seigneur, je te sers avec des intérêts. Seigneur, je te sers de tout mon cœur, de toute mon âme. Non pas en vue d'une récompense quelconque, mais parce que j'ai la foi. Et bien qu'un jour ou l'autre, je te verrai dans l'éternité. Et parce que tout simplement je t'aime et que je te le dois. Et plus ni moins. Et c'est dans cet esprit-là que Daniel va se mettre à genoux. Le décret du roi, ce n'était pas important pour lui. Ce qu'il voulait, c'était entretenir sa communion avec Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux? Ta relation avec Dieu ou les difficultés que tu traverses? Est-ce que les difficultés t'ont fait arrêter de te prier, arrêter de lire la parole? Est-ce que la perspective de la fosse au lion te fait peur? La perspective de la sanction éventuelle te fait peur? Qu'est-ce qui a stoppé ta relation avec Dieu? Qu'est-ce qui a stoppé ta quête? Rien ne doit couper notre relation avec Dieu. Et je suis admiratif de la vie de ces jeunes hommes. Parce que malgré toutes les menaces, malgré toutes les contraintes, eh bien leur objectif, c'était leur relation avec Dieu. C'était cette intimité avec leur Dieu. Alors oui, Daniel va se retrouver dans la fosse au lion. Et parfois notre obéissance est mal payée. C'est ton cas. Notre obéissance est très mal payée. L'amour que l'on peut témoigner est très mal payé. La fidélité que l'on peut témoigner est très mal payée. Alors, il se retrouve dans la fosse au lion. Et finalement, ce n'est pas Daniel qui va passer la plus mauvaise nuit. C'est le roi Darius. Au petit matin, il ne va pas manger, etc. Bref. Et au petit matin, eh bien, il va aller toquer à la fosse, il peut dire « Daniel, tu es encore là ?» Eh oui, un ange était venu fermer la gueule des lions. Bref. En définitive, sur le long terme, eh bien Dieu a béni Daniel. Et il va l'élever encore un petit peu plus dans le statut qu'il avait à Babylone. Ça vaut toujours la peine d'obéir à Dieu. Même si la bénédiction ne vient pas comme ça, de manière immédiate. Même si parfois il faut passer par des fosses. Même si parfois il faut prendre quelques coups. Même si parfois il faut avoir quelques pseudo-déceptions. Bien, en définitive, Dieu ressuscite les choses. Dieu redonne, recrée les choses. Dieu redonne un espoir. Dieu redonne quelque chose derrière. Il prendra soin de nous. Dieu est notre Père, non? Dieu est notre Père? Et j'aime beaucoup quand Jésus dit qu'il s'occupe des petits oiseaux, qui sont destinés, pour lesquels on donne à peine quelques pièces. Il s'occupe du lys des champs, qui a vocation à être jeté au feu. Eh bien, Dieu s'est occupé de Daniel. Dieu a vu l'intégrité de Daniel. Dieu s'est servi de Daniel. Et Dieu a béni Daniel. Et ça n'a pas empêché le royaume de Babylone d'être envahi. Mais une chose est sûre, c'est que Daniel, eh bien, a été un homme de Dieu. Et derrière, il y aura cette grande vision, hein, qui bouleversera et qui, finalement, parlera des temps eschatologiques, c'est-à-dire du retour du Seigneur Jésus, notamment. Je crois de tout mon cœur que rien ne doit stopper notre vie de piété. Donc, de ce quatrième point, on retient deux choses. Première chose, l'obéissance est gratuite. J'obéis parce que je le dois et parce que j'aime mon Dieu. Parfois, elle peut être mal payée. Deuxième chose, rien ne doit stopper ma relation avec Dieu. Rien ne doit stopper ma relation avec mon Père. Cinquième point, ça va, vous survivez? Ouais? C'est bon? Vous n'êtes pas endormi encore? Parce qu'il y en a encore huit. Cinquième point, une notion de priorité. Et là, on le retrouve au travers des amis de Daniel et des amis de Daniel. Une statue va être érigée et le roi va dire, Nebuchadnezzar va dire, maintenant il faut que tout le monde se prosterne devant cette statue. Waouh. Alors il y a la foule qui est là, il y a toute la ville qui est là, et puis il sonne la trompette, tout le monde se prosterne devant la statue, sauf trois. Il doit y avoir une erreur. On va les convoquer, ils n'ont pas dû entendre bien les consignes. Hein. Donc, il faut vous prosterner. Sinon, quick. Tu peux dire ce que tu veux. Nous ne nous prosternerons pas devant cette statue, quoi qu'il en coûte. Et puis, même si tu nous jettes dans la fournaise, notre Dieu est capable de nous en délivrer. Et puis, même s'il ne le fait pas, ce n'est pas grave. Vous relirez le texte, je le retraduis, mais c'est à peu près ça. Pour le rendre bien, bien lisible et bien clair. Et voilà que ils refont un essai. La sonne de la trompette, et tout d'un coup, les trois restent toujours debout. Oh ! Ils refusent de se prosterner. Dans leur vie, la priorité, c'était Dieu, et c'était la loi de Dieu. Ils refusent de se prosterner devant des idoles. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de statues dans nos vies, enfin, du moins dans nos maisons. C'est assez rare. Mais il peut y avoir des idoles tout à fait modernes. Au-delà de l'adoration des hommes, chanteurs, footballeurs, etc., au-delà de nos passions, qui sont des idoles qui peuvent passer avant Jésus, des choses qui peuvent passer avant Jésus. Parfois, ça peut être nos rêves qui passent avant Jésus. Vous savez, on peut poser une idole dans notre cœur en disant ce qui est important, c'est de bien réussir ma vie professionnelle. Et finalement, toute notre énergie passe là-dedans. Et on en occulte Jésus. Ce qui est important, c'est de bien réussir mon mariage. Normal, j'ai épousé une femme extraordinaire, donc c'est facile pour moi. Hein. J'ai aucun mal pour ça. C'est pour toutes les méchancetés que je dis d'habitude. Je me rattrape ce soir. Et finalement, ça passe avant Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'une idole? C'est tout ce qui prive Dieu de ce que l'on lui doit. Ni plus ni moins. Et eux, ils vont refuser de se prosterner devant cette idole. Ça va leur coûter, puisqu'ils vont se retrouver dans la fournaise, qui a été chauffée bien plus que normal. Mais là, dans la fournaise, qu'est-ce qui va se passer? Et il va y avoir une quatrième personne qui va apparaître. Et cette personne, on peut penser que c'était Jésus, ou une théophanie. Et là, leurs liens vont être brisés dans cette fournaise. Et ils vont en ressortir. Le roi va dire, c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche, sortez-nous, sortez-les de là. Et lorsqu'ils vont sortir, la Bible nous dit qu'ils ne sentaient même pas la fumée. Quelle belle image. Oui, parfois, on devra passer par ces chemins-là, faire des choix, refuser de se prosterner devant des idoles modernes. Peut-être qu'on passera dans les fournaises, mais en définitive, dans la fournaise, qui est-ce qui est avec nous? Il y a Jésus. De la même manière qu'il a été avec Daniel dans la fosse aux lions. De la même manière qu'il a été dans la fournaise avec les amis de Daniel. Eh bien, il sera avec nous. En conclusion, cette simple pensée. Cette histoire, ce récit de la Bible, qui est vrai, qui est authentique, et parfois tout à fait incroyable. C'est vrai? Ne me dis pas, ne me dis pas le contraire. C'est complètement incroyable. Pourtant, c'est quelque chose que nous pouvons vivre. Parce que nous sommes de la même nature que Daniel. Deux bras, deux oreilles, un nez, des yeux. Exactement la même chose. On est fait de la même nature que Daniel. Et surtout, eh bien, le même Dieu que Daniel, eh bien, vit en nous par le Saint-Esprit. Et il nous donne cette capacité. Ne regarde pas demain avec crainte. Ne regarde pas demain avec peur. Mais dis-toi que ce Dieu qui a béni Daniel, qui a gardé Daniel, et qui en a fait un homme de Dieu remarquable, duquel dont on parle encore aujourd'hui au XXIe siècle, eh bien, fera de toi quelqu'un qui sera capable de faire exactement la même chose lorsque la situation se présentera. Alors, je ne sais pas de quelle manière, de quel de ces cinq points se présentera demain, mais une chose est sûre, eh bien, c'est que Dieu sera avec toi, que Jésus sera avec toi, et qu'il te rendra vainqueur. Que le Seigneur te bénisse, nous bénisse, fasse du bien, et nous fasse de nous des Daniel. On va prier le Seigneur.